Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que sait-on de la Syrie aujourd'hui, en dehors de Bachar el-Assad, du soutien que lui apportent la Russie et l'Iran et des chiffres terribles illustrant ce que l'on appelle dans la presse la crise des réfugiés ? Entre 2011 et 2017, par exemple, le double cataclysme qu'a représenté la guerre d'un côté et la répression de l'autre a détruit 3 millions de maisons, tué 200 000 civils, dont 17 000 enfants. 45 000 personnes sont mortes sous la torture dans les prisons d'El-Assad et l'on compte au bas mot 12 millions de déplacés et de réfugiés syriens, dont 8 ont quitté le pays, parfois pour l'Europe. Ce que l'on sait moins, et même beaucoup moins, c'est comment les choses ont commencé. Comment, au début de l'année 2011, tandis que les foules arabes se soulevaient en Tunisie, en Égypte, au Yémen, déclenchant le printemps du même nom, une partie de la jeune génération syrienne tentait quant à elle de faire une révolution contre tous les tabous. De Damas à Homs, les jeunes qui se sont alors lancés contre le régime de Bachar el-Assad ne voulaient pas seulement le renverser, ils voulaient aussi renverser l'ordre social. C'était une révolution politique, mais aussi une révolution sexuelle contre la religion. Elle a duré un an. Puis la violence du régime et celle des islamistes conjugués l'ont détruit, condamnant ses membres à la prison, à la mort ou à l'exil. Cette histoire d'une libération écrasée, méconnue ou niée, est aujourd'hui l'objet d'un roman, Le Dernier Syrien. Son auteur, Omar Youssef Souleyman, l'a vécu de l'intérieur avant de tout quitter pour sauver sa vie et trouver refuge en France. Et c'est lui que nous recevons aujourd'hui, Omar Youssef Souleyman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né en Syrie, donc, de parents qui étaient dentistes.
Oui.
Et salafistes aussi.
Exactement.
Vous avez passé une partie de votre enfance en Arabie Saoudite, vous avez découvert clandestinement, c'est là que vous avez découvert clandestinement la poésie, en particulier, si j'ai bien compris, la poésie française, en Paul Éluard, dans des traductions clandestines, et aussi Khalil Gibran.
Oui.
Et vous êtes revenu en Syrie ensuite, où vous avez été journaliste de 2006 à 2010. En 2011, vous avez pris part aux manifestations contre l'état d'urgence. La guerre civile a éclaté, vous avez été recherché par les services secrets syriens et vous avez dû quitter la Syrie d'abord pour la Jordanie, puis en 2012 pour la France, qui vous a accordé l'asile politique. Vous avez appris le français, vous ne parliez pas français en arrivant.
Non.
Et vous avez publié en français depuis plusieurs recueils de poésie. Et vos livres sont écrits en français et vous êtes depuis décembre 2016 directeur de programme au Collège international de philosophie. C'est bien ça ?
Oui.
Alors d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, l'expérience de l'écriture en français.
C'était une expérience incroyable pour moi. J'ai appris grâce à cette expérience beaucoup de choses. Comment je peux penser et rêver et écrire dans une nouvelle langue. Comment je peux être réfugié, et c'est mon cas depuis mon arrivée en France. Comment je peux être réfugié dans la culture française, dans la langue de Paul Éluard, les plus grands poètes, les chanteurs français évidemment. Mais cette expérience, c'était grâce à une rencontre que j'ai fait avec mon éditrice, qui est toujours mon éditrice, chez Flammarion. Et c'est elle qui m'a encouragé d'écrire en français parce que elle avait l'impression que je pouvais créer un style indépendant dans la langue française. Voilà.
Et est-ce que vous pensez différemment dans une langue étrangère? Est-ce que vous pensez différemment en arabe et en français?
Je dis toujours que je pense, je rêve en français, mais je pleure en arabe. Parce que la langue arabe est la langue de mémoire, la langue de passé, la langue de chaleur. La langue française, pour moi, c'est la langue de l'avenir, car j'imagine que mon avenir sera en France après d'avoir créé une vie ici en France. Pour ceci, j'ai écrit mes deux derniers livres, Le Petit Terroriste, qui est sorti en 2018 chez Flammarion en français, et Le Dernier Syrien qui vient sortir récemment chez Flammarion.
Oui, qui est pour lequel vous êtes ici. Et vous dites aussi que vous, d'une certaine manière, vous ne retournerez jamais en Syrie, parce que même si vous y retournez, ce ne sera pas le même lieu. C'est-à-dire quitter un lieu, c'est aussi quitter une époque, en fait.
Exactement. Et c'est le cas des millions de Syriens dans le monde entier aujourd'hui, parce que ce n'est pas seulement la géographie syrienne a changé, mais les gens aussi ont changé. Et les gens les plus proches, par exemple, même ma famille a changé après toutes ces années, et nous aussi on a changé, autant réfugiés dans une nouvelle culture grâce à cause l'intégration dans un nouvel univers qui ne ressemble presque pas du tout la lionnée verte où on est venu. Donc ce paradoxe, ça peut être riche, parce que l'exil, normalement, c'est une expérience très riche. À travers de cette expérience, on découvre beaucoup de choses, mais ça crée aussi un nouveau sentiment. Ce sentiment, c'est l'exil ne finira jamais. C'est-à-dire, même quand on rentre, rien n'aura changé. On va garder ce sentiment autant comme des étrangers. Et d'ailleurs, je ne peux pas rentrer. En général, parce que je n'ai pas de passeport, j'ai un titre de voyage qui me permet de voyager seulement dans l'Union européenne. Et même quand j'aurai un passeport, il faut que le régime bassiste de Bachar al-Assad soit renversé, parce que je suis condamné à mort en Syrie. Et ensuite, je peux rentrer. Et le retour en Syrie, pour moi, c'est seulement pour voir les gens les plus proches, surtout ma mère aujourd'hui, mais ce n'est pas pour rester.
Qui vit toujours en Syrie ?
Qui vit toujours en Syrie, comme toute ma famille.
D'accord, oui. En même temps, vivre ici, c'est un exil, mais en même temps, il y a des liens entre la France et la Syrie, c'est-à-dire qu'il y a des traces historiques.
Bien sûr.
Vous dites, je crois que c'est dans le dernier Syrien.
Dans le dernier Syrien, oui.
Vous dites que certains quartiers ont été construits par les Français, le plan urbanistique de Damas a été construit par les Français.
Voilà, par un Parisien, d'ailleurs.
Par un Parisien.
Dans les années 30. Oui. C'était incroyable, et on ne le savait pas, vous voyez. En Syrie, on n'a pas du tout étudié ça, parce que le regard vers la France, c'est le regard vers l'occupation. Et même par les Français en Syrie, c'était pas très désirable. Et sauf qu'on utilisait pas mal des mots français et on ne savait pas quoi ça c'est d'origine française. Comme ce que je dis aussi dans le dernier Syrien, c'est par exemple, il y a un resto très connu à Damas qui s'appelle Chez nous. Chez nous, c'est français, sauf qu'on le disait, on disait tout le temps Chez nous, Chinon, on ne savait pas ce que c'est. Et arrivé en France, je trouve que c'est un mot français, qu'on l'écrivait en arabe.
Mm-hmm. Voilà. Oui, il y a aussi de la vache-kiri.
La vache-kiri, c'est très connu. Vous dites à un Syrien la vache-kiri, il connaît tout de suite. Sauf que ce n'est pas la vache-kiri, c'est la vache-kiri.
Alors on va parler de votre enfance et de votre exil qui sont la matière en fait de votre premier récit en fait le petit terroriste. Mais avant on va commencer par le dernier Syrien qui est donc un roman dans lequel vous mettez en scène à la fois la Syrie et à la fois un groupe de jeunes activistes. D'abord qu'est-ce qui a déclenché l'écriture du livre?
Vous savez après ma sortie de la Syrie. La plupart des jeunes et des amis qui avec qui j'y étais, ils étaient soit assassinés, soit emprisonnés, et ensuite assassinés en prison. Et un de ces personnes était un journaliste, qui était un ami proche, et c'est lui qui m'a montré comment je peux filmer les victimes, les cadavres et les manifestations, et montrer ça sur Internet et les envoyer pour les chaînes. Et quand je suis sorti, ce monsieur, cet ami, était tué à Damas dans une maison par les services de renseignement avec un groupe de journalistes. Et après sa mort, j'avais aucune vidéo de la funéraille ou de lui après sa mort. Sauf que c'est lui qui m'a montré comment je peux filmer
C'est lui qui vous avait montré comment filmer les morts, mais vous n'avez aucun film de lui, évidemment.
Exactement. Ouais. Parce qu'on ne sait même pas où son cadavre, parce que les services d'enseignement, il l'en a pris, ils l'ont caché quelque part. Et cet événement, ce paradoxe, a créé, a été calligraphié, comme on dit dans ma mémoire, et j'avais besoin d'écrire sur lui et sur tous ces jeunes qui ont donné leur vie pour la liberté de leur pays, afin qu'ils ne soient pas oubliés. Et évidemment qu'ils ne sont pas oubliés, mais vous savez, dans le média en général, quand on parle de la guerre, soit dans les journaux, le média visuel, etc., quand on parle de la révolution, on ne fixe pas sur les détails de la vie quotidienne. Mm-hmm. Voyez. Et je crois que les romans, autant écrivain, vous savez ça très bien, je crois. Quand on écrit un roman, ça nous aide beaucoup, le style romanesque. Et il est idéal pour fixer, malgré la violence, les détails de cette vie quotidienne.
De la vie quotidienne. Oui, c'est aussi la vie quotidienne du pays, enfin de Damas en particulier. Il y a des petits détails qui ancrent vraiment on voit la vie vivre, comme les rabatteurs de la gare routière, par exemple, c'est des petits riens, hein, mais qui reçoivent une petite somme pour chaque voyageur qu'ils amènent jusqu'à l'autobus en direction de Homs, par exemple.
Oui.
Des petits détails de vie quotidienne comme ça qui ponctuent le récit.
Oui.
La rue de la mort, qui est prise pour cible par les snipers, qui tirent sur les civils, les snipers du gouvernement.
Oui, en fait, c'est tout à fait vrai, je pense. D'ailleurs, toutes les histoires dans ce livre étaient inspirées par des histoires réelles. C'est pour ça que je peux dire que c'est un roman d'inspiration autobiographique. Et comme dans ce cas, je pense que c'est très très intéressant de fixer sur ces détails de la beauté de cette vie quotidienne, parce que dans une guerre, dans la violence, malgré tout, on vit des moments inoubliables, des moments tellement humains. Et c'est ce que ces jeunes vivent, vivaient dans la Révolution.
Il y a aussi les livres qui jonchent le trottoir dans un quartier. Je vous racontais que les vendeurs de livres d'occasion qui protègent les livres avec des parasols.
Exactement, c'est une tradition.
C'est une tradition depuis
longtemps, dans un quartier qui s'appelle Halbouni à Damas, des livres d'occasion sont vendus sur les trottoirs. Oui. Mm-hmm. Ils ne sont pas protégés, ils partent chez eux, ils dorment. Ils laissent les livres.
Là, et personne ne les vole.
Parce que les voleurs ne sont pas intéressés par la lecture.
Alors, les héros de ce livre, c'est un groupe de jeunes, en fait. On peut les présenter rapidement. Il y a Joséphine, qui est pratiquement l'une des principales, en fait, qui est alaouite.
Oui.
La situation des alaouites en Syrie est particulière, puisqu'ils doivent.
Ils sont minorités.
Ils sont doublement traîtres.
Tout à fait.
Puisqu'ils sont. Le gouvernement Al-Assad est alaouite, mais sinon, on n'est pas du côté de Al-Assad, on est doublement traître. On est à la fois traître parce qu'on a fait la révolution et contre contre son clan, en fait.
Oui.
Elle joue un rôle particulier dans le livre, dans ce qu'elle dit. Il y a son mec, enfin son compagnon, ils ne vivent pas ensemble, mais Khalil. Mm. Et puis il y a Youssef et Mohamed qui sont un peu les deux principaux axes. Leur dialogue fournit le principal axe du livre.
Voilà.
Youssef est totalement homosexuel.
Oui.
Mohamed est à moitié homosexuel.
Voilà.
Il est bisexuel, quoi. Mm. Youssouf est aussi militant.
Oui.
Et Mohamed ne l'est pas. Il est non militant, il se sauve par la lecture et le sexe.
Exactement. Ouais. Pour rester vivant.
Et l'histoire commence par une ils couchent ensemble, en fait.
Exactement.
Et puis ensuite, ils se parlent par email et c'est leur dialogue. Et aussi le dialogue avec Joséphine qui va fournir l'axe discursif un peu du roman et montrer comment les choses se passent à Damas.
Voilà. En fait, c'est comme vous avez dit, c'est Joséphine. D'ailleurs, la signification de son prénom, c'est la personne qui rassemble les gens autour d'elle. Et elle est quelqu'un forte, indépendante. Elle voyage tout le temps entre Damas et Homs. Et les checkpoints, elle n'arrête pas. Elle n'arrive pas à remarquer que cette fille élégante, charmante, très jolie, alaouite, elle sera vraiment contre le régime de Bachar al-Assad. Sauf qu'il y avait beaucoup d'alaouites contre ce régime. Mais les soldats, ils ne remarquent pas ça. Et comme vous avez dit, sur la situation des alaouites en Syrie, c'est tellement, tellement compliqué, car dans toute l'histoire, ils étaient humiliés par toute l'occupation ottomane.
Il faut expliquer en deux mots, les alaouites sont donc musulmans, ils sont un peu chiites, mais pas complètement.
Exactement, voilà. Donc c'est pas pareil, c'est pas comme les chiites, c'est une partie de l'islam, mais pas comme les sunnites. Les sunnites, c'est une autre partie, on peut dire les sunnites qui croient qu'il faut appliquer le Coran, le texte coranique, dans leur vie quotidienne. Et les alaouites, ils prennent le texte coranique et le traitent comme des métaphores. Là, j'expliquais globalement. Ouais. Et du coup, en Syrie, c'est à cause des raisons politiques, parce que ce régime a vraiment divisé le peuple syrien depuis longtemps, aux sunnites et des alaouites, pour créer un sort d'ennemi entre eux. Pour profiter de cette situation, sauf que Joséphine était de cette minorité, on l'appelle les alaouites, elle était presque amoureuse de Youssef, qui est homosexuel, ça aussi le paradoxe, et sauf que Youssef était amoureux de Mohamed, de son amant, et Youssef aussi était engagé dans la révolution, il était quelqu'un indépendant, et sa mère l'a appelé Youssef parce qu'elle adorait un mythe historique dans la religion, dans l'islam, sur le prophète Youssef, je crois qu'on l'appelle Jacob dans la Bible. Et Youssef était un prophète très très beau, était magique, fascinant, c'était un ange, toutes les femmes tombent amoureuses de lui, sauf que Youssef était homosexuel, donc presque il s'en fout de ça. Donc c'était ça, sa propre révolution. Vous savez, tous ces personnages, ils ont leur propre révolution, d'ailleurs dans leur famille, et ensuite dans leur société, et après contre le régime de Bachar al-Assad.
Voilà,
c'était des jeunes vivants. Et c'est pas leur révolution, c'était pas seulement une révolution politique, mais plutôt une révolution sociale contre les traditions et pour gagner une vraie liberté, une vraie dignité, être indépendant dans une société où ils peuvent appliquer leurs rêves. Mmh.
France Culture, Signe des Temps, Marc Wetzmann.
Omar Youssef Souleyman, le dernier Syrien, roman qu'il faut lire. Hein. Si on veut essayer de comprendre ce Moyen-Orient et la Syrie qui est si proche géographiquement et historiquement et dont la violence est si paroxystique. Omar Youssef Souleyman, alors un des champs de tension dans le roman, on vient de le dire, c'est entre Mohamed et Youssouf, les deux amants qui ont couché ensemble. Oui. Youssouf est homosexuel et Mohamed, lui, son histoire est plus complexe. Son père a fait 10 ans de prison et est sorti épuisé. Et il utilise une forme de ce qu'on appelle, le terme est devenu très célèbre en France depuis les attentats, la taquilla, c'est la dissimulation.
Ah oui.
Mais il l'utilise pour sa vie sexuelle.
Vous trouvez qu'elle est devenue célèbre en France?
Le terme est devenu célèbre après avec les attentats.
Oui, quand même.
Mais alors, le terme n'est pas prononcé dans dans le roman, mais on reconnaît les chiites, dissimulent leurs croyances quand ils sont en milieu hostile, dit Mohamed. Je suis comme eux. Mon père est très fatigué désormais parce qu'il a fait 10 ans de prison et donc je suis prêt à tout pour lui éviter plus de peine. Je me suis même fiancé pour lui faire plaisir. Sa fiancée s'appelle Sarah. Elle est charmante avec ses yeux intenses et sa taille très mince comme j'aime. Sexuellement, elle me plaît de moins en moins. Mais quand je vois le sourire de mon père, j'oublie mon attirance profonde. Je vais taire mon désir. Je pense que je vais me marier et lui donner des petits-enfants.
Exact.
Et donc, le sexe dans le livre joue un rôle absolument central, à la fois politique et intime entre les personnages. Et c'est très complexe, la relation qui se noue entre Mohamed et Sarah, d'une part, et entre Mohamed et Youssouf, d'autre part.
Ça, on peut dire que c'est un autre trio. En fait, Mohamed, il présente une partie des jeunes Syriens ou de la société syrienne qui vit à travers le regard des autres, vous voyez. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, ce n'est pas appliquer son désir ou son plaisir, mais plutôt que les autres soient contents de lui. Et malheureusement, c'est un grand problème au Moyen-Orient à cause des tabous de la religion et les tabous sexuels qui sont toujours liés, bien sûr. Mohamed, il vient d'une famille pratiquante, un peu. Son père, comme vous avez dit, il était emprisonné, donc il avait plein de problèmes de l'enfance, etc. Et il vit dans le doute. Il ne sait pas s'il est vraiment homosexuel, bisexuel, ce qu'il le plaît, ce qu'il ne le plaît pas, qu'est-ce qu'il doit faire. Et c'est pour ça qu'il vit dans le discret. Il a une vie vraiment discrète, comme la plupart des homosexuels en Syrie. On peut dire presque comme tous les hommes, en fait,
en Syrie. Comme tous les hommes, en réalité, oui. En même temps, vous dites que l'homosexualité a existé en Syrie comme partout ailleurs dans le monde. Enfin, vous citez plusieurs personnages historiques qui ont été des homosexuels notoires, même ou légendaires d'ailleurs. Mais, vous dites qu'il y a même eu du tourisme sexuel avant la guerre, mais cette homosexualité reste cachée et interdite, comme d'ailleurs dans la plupart des pays arabes.
Exactement. C'est le cas depuis longtemps. Mais d'abord, pourquoi il utilise taqiya? En fait, taqiya, c'est une technique qu'on utilise par rapport aux chiites et la plupart des minorités dans l'islam pendant toute l'histoire afin d'éviter la violence. Donc c'était appliqué en Syrie, mais par une façon aussi drôle aussi. Par exemple, avant chaque manifestation, on met la souvent la photo de Bachar al-Assad sur nos portables et une chanson quand on traverse le checkpoint. On met une chanson pro-régime d'Assad avec une bouteille de whisky en disant pour dire qu'on s'en fout de la révolution, il y a des gens vraiment cool, etc. Après, il y avait des autres checkpoints islamistes. Donc, il faut vraiment changer tout. Avant d'arriver à l'autre checkpoint, il faut mettre une barbe avec le Coran. Donc, on traverse bien. Et la catastrophe, si on trompe, entre les deux checkpoints.
Oui.
C'est mort. Alors, l'autre, par rapport à ce que vous dites sur l'homosexualité dans l'histoire, c'est très présent. C'est très, très présent dans la plupart des livres, comme Mille et une nuits, par exemple. Et on a pas mal de poètes arabes du Moyen-Orient qui était homosexuel, qui écrivait des poèmes magnifiques sur leur amant, surtout Abu Nuwas de l'époque abbasside, au 8e siècle, au 9e siècle. C'est un très grand poète dans l'histoire arabe. Et d'ailleurs, les califes, ils avaient beaucoup d'amants dans leur château. Il y avait des femmes, des filles et des garçons. Et c'était pas caché, c'était présent, c'était connu, parce qu'à cette époque-là, ce que l'on appelle l'époque d'or du monde arabe, il y avait un sort de liberté à cause de la séparation entre l'État et la religion et la philosophie, parce que c'était aussi l'intégration, le début de l'intégration de philosophie dans le monde arabe et dans la culture arabe. Sauf qu'après, à cause des guerres et à cause de l'islam politique, le tabou de l'homosexualité, comme beaucoup de tabous dans le monde arabe, et c'est devenu beaucoup plus fort. D'ailleurs, la punition dans l'islam contre les homosexuels, qu'il faut les jeter d'un bâtiment avant qu'ils meurent, ou il faut les brûler. Vous voyez à quel point c'est violent et c'est horrible. Et d'ailleurs, Daesh ont appliqué ça plusieurs fois. Ils ont jeté plusieurs homosexuels.
Oui.
Mais j'ai trouvé en fait ce qui est Mohammed, comme il adore la lecture et le sexe, il cherche à lui-même dans l'histoire, il se réfugie dans l'histoire, il trouve plusieurs histoires formidables d'amour homosexuel. Parmi eux, c'était Al-Amin qui avait un amant très proche à lui qui s'appelle Kawsar. Il écrit même de la poésie sur Kawsar. Donc Mohammed, il vit dans ce doute en disant que pourquoi c'est interdit, bien que c'était présenté dans l'histoire.
Oui, alors Mohamed dit à Youssouf, ce qu'on fait n'est pas bien, on ira en enfer, je ne suis pas pratiquant mais je crois tout de même en Dieu. Et Youssef lui répond exactement ce que vous venez de me dire en fait, plusieurs califes ont été homosexuels, rien n'est immuable, tout change, nul ne sait ce que tu deviendras. Si un jour tu arrêtes de faire l'amour avec des hommes, si c'est toi qui choisis, ce sera quelque chose de respectable. Et il a cette phrase qui est vraiment une des phrases clés du livre, et qui est le sujet en fait à la fois de la Révolution et de votre livre. Nos parents ont été éduqués avec l'interdit, ils sont ridicules, ils n'ont pas vraiment vécu leur vie, mais il faut qu'ils nous laissent vivre la nôtre.
Exactement.
Et c'est ce qu'essaye de faire.
Vous voyez, exactement, c'est incroyable, parce que c'était une révolution, profondément, c'était une révolution contre l'ancienne génération. Ce qu'il nous arrivait tous, je me souviens, ça m'est arrivé 2 jours avant la première manifestation à Damas, le 15 mars, quand j'ai annoncé à ma mère que je vais manifester, elle m'a dit il n'y aura pas de résultat, parce qu'elle a déjà vécu la violence du régime dans les années 80. Mon père, à l'époque, il m'a dit la même chose, il m'a dit vous allez échouer, et finalement le régime, il va regagner. Ma réponse c'était, si votre génération a accepté d'être opprimée par ce régime fasciste, nous, on ne va pas accepter ça. Aujourd'hui, je me demande s'ils avaient raison ou pas, mais je trouve qu'en général, nous devions essayer de faire quelque chose malgré tout. Mais c'était, en général, même dans le livre, on le trouve. Par exemple, pas seulement Youssef, même Joséphine, d'une famille alaouite pro-régime. Il y a l'autre, Rachid, qui est drôle et un peu alcoolique, qui est aussi d'une famille tellement pro-régime, mais finalement, elle était menacée par rapport à sa famille. Donc, leur vraie révolution était contre leurs parents.
Il y a plein de contradictions. C'est-à-dire que la fiancée de Mohamed, Sarah, est elle-même révolutionnaire, mais en même temps, elle ne veut pas coucher avec Mohamed, elle veut rester vierge jusqu'au mariage. Voilà. Elle pense que si sa famille sait qu'elle manifeste, enfin, son père lui a dit qu'il allait l'égorger, qu'il rejoignait les manifestants. Mohamed, lui, qui est plutôt homosexuel et ne veut l'épouser que pour l'apparence. Voilà. Néanmoins, lui a proposé de faire l'amour dès qu'il l'a rencontré, ce qu'elle a refusé. Donc, les personnages sont pris dans des tensions constantes.
Voilà, ils sont différents. Complètement différents, comme toutes les sociétés. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse dans ce livre de parler, c'est de parler des jeunes Syriens d'or de clichés.
Ouais.
Parce que, malheureusement, souvent, quand on parle de Moyen-Orient, dans le monde occidental, on imagine des chameaux et des chameaux ou je sais pas quoi. Voilà, il y a les clichés, les traditions comme partout quand même. Alors, je voudrais écrire sur cette société comme elle est, comme j'ai vécu, sans tabou ni clichés. Mais ce qui unit ces jeunes, c'est le rêve d'avoir une vie mieux que celle où ils vivent. Où ils vivaient. Et voilà, je trouve que c'était la seule chose qui les rassemblait, où les, malgré leurs opinions différentes.
Oui, Joséphine qui a le discours le plus clair, en fait, sur ce qu'ils veulent, oui. dit plusieurs choses. Elle dit à Youssef, regarde autour de toi, notre peuple vit en permanence dans la dissimulation. Chacun a des désirs qu'il garde pour lui. On nous dit qu'il n'y a qu'un seul mode de vie légitime, le mariage, pour avoir des enfants, sans quoi tu es un pervers. Voilà. Donc les questions politiques et sexuelles sont complètement liées.
Exactement.
Du fait de la religion. Oui. Et elle dit, elle a cette phrase qui est vraiment le cœur du livre, « Nous sommes des réprouvés. Les islamistes nous détestent car nous sommes laïcs. Le régime nous déteste parce qu'on est des rebelles. Et les politiques nous détestent parce qu'on est sincères. Ils nous appellent traîtres, infidèles, hérétiques, parce qu'ils ne savent pas ce que signifie être libre. »
Exactement. Voilà, et c'est la vérité. En fait, ces jeunes étaient seuls face à la violence du régime de Bachar al-Assad et la torture des islamistes. Et malheureusement, en même temps, ils voulaient pas seulement renverser le régime et lutter contre les islamistes, mais effacer leurs conséquences sur la société. Ces jeunes, je crois, ils ont cru à une phrase d'un écrivain américain qui s'appelle Mark Twain. Il dit, Mark Twain, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mm-hmm. Et c'était réel, en fait. Ils savaient, par une manière ou une autre, dans un moment, dans le roman, on trouve qu'au ils trouvent qu'il n'y a plus d'espoir. On est où? On est vraiment perdu. Tout le monde sont contre nous. Et ils ont, en même temps, ils ont bord d'entrer dans une guerre civile et le régime est très très fort et ils n'ont aucune aide du monde entier, mais ils continuaient parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix ou parce que ça c'est leur seul rêve.
Voilà. Alors on voit dans le roman, et c'est un des aspects les plus poignants du livre, à mesure que le roman se déroule, la violence augmente. La brutalité aussi, enfin, les scènes de torture que vous décrivez, j'imagine que vous les basez sur des témoignages authentiques, vous ne les avez pas inventés.
En fait, d'abord, moi, je suis sorti de la Syrie afin de n'être pas emprisonné par le régime, parce que la plupart de mes amis qui étaient emprisonnés, ils sont sortis complètement détruits sur le plan physique et psychologique.
Oui.
Et d'abord, tout ce que je raconte dans le livre sur la présence chez Bachar al-Assad ne donne qu'une vision très vague ou très floue de la réalité, parce que ce qui se passe en réalité, en fait, la présence de Bachar al-Assad, il ressemble beaucoup à celle des nazis par rapport à la torture. Jusqu'à aujourd'hui, on a plus que 45 000 personnes été tuées dans ces prisons. Personnellement, j'ai un cousin qui était arrêté en 2012, il avait 15 ans, il était arrêté car il écrivait sur Facebook contre le régime, et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Mm-hmm. Donc, cette barbarie, cette violence, là, je reviens vers le sujet où ces jeunes étaient seuls, étaient abandonnés. Malheureusement, c'est un drame.
C'est ce que j'allais dire, c'est un des aspects poignants du livre. On voit, à travers la correspondance des personnages, ce qu'ils se disent, monter les milices islamiques financées par l'Arabie Saoudite,
voilà,
par l'Iran, qui sous couvert de, soit pour soutenir le régime, soit au contraire pour soutenir, soi-disant, la révolution, mais qui vont éliminer peut-être petit à petit les laïcs.
Exactement, exactement.
Les faire disparaître, les faire partir ou les tuer. Et chacun guette l'aide internationale. Deux femmes, à un moment donné, deux femmes parlent politique, se disent qu'une solution serait en passe d'être trouvée. Tout le monde se répète qu'une solution va être trouvée à chaque fois qu'Obama déclare que les jours d'Assad sont comptés.
Ouais.
En fait, rien ne se passe. Les jeunes sont laissés, en fait, sont laissés à eux-mêmes. L'aide internationale n'intervient jamais.
Tout à fait. En fait, ni l'opposition traditionnelle contre le régime de Bachar al-Assad a aidé ces jeunes, parce qu'eux aussi, ils étaient engagés dans des agendas pro-Arabie Saoudite ou Turquie, qui n'a rien à voir avec la démocratie syrienne indépendante. Et d'ailleurs, ces jeunes n'acceptent pas de profiter de ce système. Et là, je voudrais juste revenir vers ce sujet de la liberté des jeunes syriens, parce qu'ils étaient des gens en vrai lieu. D'abord, en général, Être libre, c'est difficile, n'importe où. Mais en Syrie, dans une société complètement fermée, condamnée par un dictateur qui contrôle ce pays depuis l'année 63, c'est complètement, complètement difficile. Et parfois, on est mal entendu par tout le monde. Mais ils ont continué malgré tout. Voilà.
Et vous dites que le livre est flou. Enfin, il y a des scènes d'une très grande brutalité, hein, petit à petit. En particulier, les scènes dans la prison sont quand même assez brutales. Ouais. À côté de ça, Mohamed va dans des boîtes de nuit où il voit les fils, les enfants des hauts gradés danser comme si de rien n'était pendant que tout le monde meurt et se fait tirer dessus. Il dit « J'ai détesté ma vie ». Il touche d'une main des sables, sur une affiche publicitaire des sables d'Arabie Saoudite. Il rêve enfoncer ses mains dans le sable pour enterrer cette terre maudite d'où ne jaillit que le pétrole, la guerre et la haine.
Exactement.
Et le livre devient tout de même très noir et s'achève sur la nécessité du départ, quoi. Quand on peut partir.
Exactement.
Et il y a ce dialogue entre Youssef et Joséphine à la fin sur l'inutilité du témoignage. Et c'est une question que je voulais vous poser. Parce que le dialogue, c'est qui va filmer les victimes si on part? Oui. Et la réponse, c'est YouTube regorge de cadavres sans aucun résultat. Nous avons des milliers de photos qui documentent très précisément ce qui se passe. Malgré cela, presque personne ne fait attention à cette tuerie. Notre sang n'a aucune valeur. Et Mohamed, quant à lui, écrit cette guerre est semblable aux jeux romains au cours desquels des se battaient à mort. La différence aujourd'hui, c'est que les spectateurs, c'est le reste du monde. Finalement, tueurs et victimes disparaîtront. Il ne restera que leur tombe oubliée et personne pour se souvenir de leur passage ici.
Oui, c'est la réalité.
Quand j'ai lu cette phrase, j'ai pensé à une phrase de Kundera, je crois que c'est dans le livre du rire et de l'oubli, rien ne sera pardonné, tout sera oublié.
Exactement. Malheureusement, en fait, c'est donc quand on médite l'histoire humaine, on trouve cette situation à la suite de chaque guerre. Mm-hmm. Donc c'est pas nouveau. Sauf que ces jeunes, en fait, ils ont cru au début de la révolution, s'ils filment, s'ils font des reportages, ils militent, il y aura quelqu'un qui va les aider, les droits d'homme, l'amnistie, etc. Parce que ils ont cru on est au 21e siècle. Donc c'est inacceptable,
un régime,
au 21e siècle, c'est inacceptable, il y aura un régime qui va torturer, qui torture son peuple, et le monde entier regarde ça. Sauf que dans un seul coup, quelques mois plus tard, ils ont trouvé que non, c'est normal, ça existe, et ça existera. Ils ont vraiment plus d'espoir d'avoir quelqu'un les aide. Et donc c'est pour ceci, la plupart des personnages finalement quitte la Syrie, comme l'ont fait de très nombreux militants, parce que comme vous avez dit tout à l'heure, le régime a essayé de vider, il a fait tout pour vider la Syrie des militants laïcs et la guerre des corps, les islamistes, pour donner une image au monde entier qu'il y a du terrorisme.
Terrorisme, et c'est eux qui sont le garant. Voilà,
ça, c'est mes vrais ennemis, et c'est vrai, il y a eu des terroristes en Syrie, évidemment, mais c'est seul vrai ennemi.
France Culture, Signe des Temps, Marc Wetzmann.
الحوادث الأحادث في البلاد النقود عجز وجوطة وصف وداب في الملحات اللي بيصف العيال نصف عمال زي البنات وإن النادية باريزة وقعت وإن فاطمة شرب رجعت وإن شكري وكالة قرر يشتغل في الممنوعات قوم يا واد هات الحوادث الأحادث في البلاد النقود عجت لشوطة وصبر وداب في الملاحات وإن بيسخت العيال نصب حمال زي البلد وإن النادية باريزة وقعت وإن فاطمة شرب رجعت وإن شكري يشتغل في الممنوعات
Alors, quel intérêt alors de témoigner si tout sera oublié? Pourquoi écrire ce livre alors?
En fait, témoigner, si on témoigne, si vous traitez mon livre autant témoignage, c'est pas pour avoir une aide aujourd'hui ou pour sauver le pays, mais c'est pour écrire. Et pourquoi écrire? C'est pour exister, pour continuer vivant. En fait, après tout ce qui s'est passé en Syrie, j'essaie de créer ma propre révolution à travers de l'écriture, ce que je faisais avant la révolution. Donc c'est la seule façon pour sentir vivant et continuer. Et d'ailleurs, je suis pas le seul dans ce cas. Il y a beaucoup de Syriens dans le monde entier qui appliquent leur projet culturel, il travaille là-dedans pour ne perdre pas l'espoir et garder un sort de rêve.
Dans votre livre précédent, Le Petit Terroriste, vous décrivez votre enfance en Arabie Saoudite et vous décrivez aussi vous décrivez votre tentation du djihad quand vous êtes adolescent à un moment donné. Oui. Et vous décrivez aussi votre arrivée en France. Et oui. Enfin, votre départ de Syrie, votre passage en Jordanie et votre arrivée en France. Le livre commence comme ça. Et vous avez cette question qui revient constamment. Qui suis-je? Le silence environne le camp, ça c'est dans un camp en Jordanie. Les lumières des gyrophares se reflètent sur les murs de ma chambre, une succession de traits lumineux. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Et un peu plus loin, traître. Voilà ce que je pense de moi au moment de laisser tous ces gens derrière moi. Le prétexte de mon métier de journaliste, l'idée de faire exister ces souffrances à la face du monde est suffisant. Je suis libre, mais qui suis-je?
Exactement. C'est le sentiment de beaucoup d'exilés. Quand on sort de son territoire, on est obligé de sortir de son territoire. On a un sort de solitude, de souffrance, on se pose toujours cette question. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on est ici? Pourquoi on est sorti? Quand on va revenir? Surtout quand on est dans un nouveau système, une nouvelle culture, une nouvelle langue, on ne la pratique pas du tout. Donc c'est pas facile de retrouver son existence à nouveau ou de retrouver même sa vie. Donc on a besoin de temps. Surtout quand on perd, vous voyez, c'est comme si c'était, il y avait un film qui continuait en Syrie. Et l'exilé, il sort de ce film dans un seul coup. Donc là, il est dans un autre film. Sauf qu'à l'intérieur, ça continuait. Lui, il est loin. Il se demande, je suis dans quel film pour l'instant? Il n'arrive pas de visualiser les scènes autour de lui. Donc c'était mon cas à l'époque. Et je crois que c'est... Même Mohamed, dans le dernier Syrien, là, je reviens, il souffrait de cette solitude dans sa propre société.
Oui, ce que vous avez dit tout à l'heure. Il est exilé au sein de sa société, en fait.
Exactement, on peut être exilé dans son propre pays, quand même.
Voilà. Et on n'a pas le temps de développer, de trop parler du petit terroriste, mais il y a un élément. Vous dites que dans votre adolescence, vous lisez le Coran, vous êtes éduqué vraiment dans ce milieu, et vous êtes dans un milieu salafiste. Il y a cette tentation du terrorisme après le 11 septembre en particulier. Et en fait, ce qui va vous sauver, c'est paradoxalement, c'est la langue. La découverte de la beauté, de la poésie arabe qui va petit à petit, oui. Et même la langue du Coran, donc, qui va vous faire, et à travers cette beauté, vous allez développer autre chose, un autre rapport à la langue.
Exactement.
Arabe.
Parce que dans n'importe quel texte religion, il y a un sort de beauté, évidemment. Sauf que dans le Coran, le problème, il faut appliquer le Coran, tout le texte, ou abandonner tout le texte. C'est la loi dans l'islam. Et c'est ça le problème, vous voyez. Et du coup, c'est ce qu'il m'a fait un athée, a fait de moi un athée.
Je dis toujours. Paradoxalement, c'est la lecture du Coran qui a fini par faire de vous un athée.
Tout à fait, c'est grâce à cette lecture du Coran que je suis devenu un athée, parce qu'on n'a pas besoin de critiquer le texte religieux de l'extérieur. Ça suffit de le lire indépendamment pour l'abandonner. parce que normalement, le texte coranique, c'est un texte historique, ce n'est pas un texte sacré. En fait, traiter le Coran comme un texte sacré, c'est très très dangereux, comme n'importe quel texte, religion, évidemment.
Et même comme n'importe quel texte tout court, peut-être.
Pardon?
Peut-être comme n'importe quel texte tout court.
Exactement, pas importe quel texte, parce que quand on a un texte sacré, c'est interdit de réfléchir, de penser et être libre. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez, si vous avez un avis quelconque, une analyse quelconque, des débats en France autour de, je vais finir là-dessus, autour de l'islam et de l'islamisme?
Je crois, malheureusement, en France, on a pas mal d'amalgames et on a le droit de critiquer l'islam, soit en France, soit d'ailleurs, parce que l'islam n'est qu'une religion. Ce n'est pas une identité, ce n'est pas une race. Et quand on voit quelqu'un nous critique autant des racistes, car on critique l'islam, je trouve que ce n'est pas la peine, ce n'est pas le cas, parce que l'islam n'est pas une identité. Et il faut, les musulmans parlent, éclairer le texte coranique, et il faut tout le monde communiquer pour sortir, parce qu'à mon avis, on a un vrai problème de l'islam en France.
Vos livres sont à la fois très très réalistes. Ils parlent beaucoup. La tension poétique est très présente aussi dans l'écriture. Et tout presque toujours en rapport avec l'exil.
Exactement. C'est là où je vis depuis longtemps. Et l'exil aussi, ça peut être une métaphore. Vous voyez, on peut être exilé à l'intérieur, on a dit, dans son propre pays. Mais c'est normal d'avoir le mot exil ou le sentiment de l'exil parce que ce que je vis.
Vous pensez que ça fait partie de la modernité, enfin de la condition du 21e siècle, l'exil en fait?
Oui, je pense, oui. Parce que c'est un cas international où on vit aujourd'hui, être étranger. Et on a souvent, parfois, on est mal entendu. Quand on est mal entendu, on souffre. Et cette souffrance s'appelle l'exil. Sauf que c'est une partie de l'exil. Parce que l'exil, c'est vraiment un mot aussi tellement riche où on vit, on sent à la douleur de l'autre. Si on berce cette identité traditionnelle, l'exil, il peut être une identité très riche.
Oui. On va finir sur un poème.
Un poème, ok.
Sur un beau poème.
Un poème inédit, court. Que nous manque-t-il pour refaire la mer? L'écho de ton souffle couvre le temps. Autour de nous, ni tueur, ni victime. Autour de nous, seulement le ciel à nouveau éveillé. Comme tous les jours, je bois mon café en attendant les mots. Après le départ des tyrans, j'écouterai les pas de mon père au bout du couloir de la vie. J'ouvrirai les fenêtres pour toucher la distance qui a grandi. Rien n'aura changé.
Omar Youssef Souleyman, le dernier Syrien. C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Céline Leclerc, avec à la technique Pierre Faucillon et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.